de l'amour. Il est pensionnaire à la Comédie Française, qui est quand même quelque chose. Bruno Puzzulu, Cécile Camp. Comme disait un journaliste anglo-saxon à la sortie de la projection tout à l'heure, « In Godard, there's God. Ladies and gentlemen, God. » Et si vous voulez bien, on va commencer par les deux producteurs. On aimerait bien savoir, si j'ose dire, de la bouche du cheval, puisque vous avez tous les deux beaucoup travaillé avec M. Godard. Comment ça se passe ? Godard téléphone en disant « Alain, Ruth, c'est l'heure. » Ruth téléphone à Godard en disant « Tu fais quelque chose ?»
Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que quand Jean-Luc décide de faire quelque chose, on est là. C'est beaucoup plus simple que ça. Voilà, on est toujours là.
Certes, mais la conversation, c'est quoi ? C'est 30 secondes. Jean-Luc dit « Pardon, Monsieur Godard. Pardon, Godard. Enfin bon. » Dit, je veux faire quelque chose, vous dites quoi ? On est là ?
On est là.
Vas-y.
On y va, absolument, on est prêt. Tout de suite même.
Ok. Il y en a peu qui ont cette chance, je dois dire.
Ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de... Hein ? Voilà.
Et pour les deux acteurs, comment ça se passe ? On est convoqué en audition, on rencontre M. Godard autour d'un café. On a un scénario, God forbid.
Ben, on rencontre forcément, sinon rien n'est possible. Alors, ça se fait soit par ce qu'on appelle l'intermédiaire d'un agent, ou soit directement. Moi, ça s'est fait parce que Jean-Luc Godard avait vu le film de Jean-Claude Guiguet, Les Passagers. Voilà, avant, il ne me connaissait pas. Donc, suite à ce film, il a demandé à me voir et puis je suis allé donc le rencontrer puis et voilà quoi.
Moi c'est simplement en faisant des essais parce que Monsieur Godard n'avait rien vu avant et voilà juste des essais.
Et à partir de là, une fois que vous savez que vous êtes pris, comment ça se passe ?
Eh ben, tout reste à faire, le pire ou le meilleur. Alors, on espère que ce sera le meilleur. Il y a un projet dont on sait quelque chose, et puis on essaiera de bâtir ça ensemble dans le meilleur des cas. Voilà.
Oui, pareil. La notion de projet, pour moi, intervenait la notion de rapidité. Puisque je suis arrivée un lundi et on a commencé à tourner le mercredi, en tout cas pour moi. Donc il fallait entrer dans le film et essayer de trouver le sens petit à petit, mais en même temps en étant déjà dans le film.
Pardon de rester encore quelques instants avec les acteurs. Dans la brochure de presse, Bruno, vous êtes défini comme étant un homme honnête. C'est la raison de votre choix, peut-être. Et vous, Cécile, vous êtes définie en tant que voix. Alors, à partir de là, comment ça se passe ?
Il y a des gens qui ont des apparitions et il y en a d'autres qui entendent des voix. Donc, peut-être, en tant que voix, je ne sais pas. J'ai aussi un corps autour de la voix. Donc,
Non, mais je ne sais pas. Moi, je comprends bien ça et j'en suis heureux. L'honnêteté, c'est... C'est rare, quand même, la droiture, maintenant, un film, c'est pas... Souvent, les comédiens se... Ben, si on vit par le cinéma, faut de temps en temps vivre pour aussi. Alors, c'est pas fait pour montrer l'éventail de ses possibilités. Il y a un auteur, il y a un projet, et puis on essaie de servir au mieux les deux, voilà.
Question dans la salle. Une question ici.
Monsieur Godard, la question c'est pour vous. Nous on s'est vu la dernière fois en 68 à Cannes. Je veux vous demander une chose. Votre film est absolument, on ne peut pas faire des commentaires parce que c'est absolument Godard's Godard. Ok, but j'ai été un peu étonnée que vous n'avez pas fait aucune allusion, après cette allusion à la télévision, à la mémoire, qui est très intéressante vraiment et très vraie, sur le email et le internet qui vient de changer quand même quelque chose dans notre monde. Et à ce que je me rends compte, vous n'avez pas fait un commentaire de ce point de vue sociologique. Ça m'intéresse pourquoi ?
Ça dans le film ?
Vous dites oui.
Dans le film.
Dans le film ?
Dans le film, moi j'ai...
Parler de email dans le film ?
Non, c'est-à-dire pas parler de email. Non, je connais votre genre de dialogue et je l'aime. C'est pas parler, mais comme quand vous avez dit que la perte de la mémoire est un peu liée à l'apparition de la télé, ce que c'est vrai. Quand vous avez dit, vous commentez sur la mémoire et sur l'universel. Alors, je voulais savoir votre opinion, si ce n'est pas dans le film, votre opinion, qu'est-ce que ça change du point de vue sociologique, ce phénomène qu'on subit tous, Internet, email, et so on.
Écoutez, je suis mal placé pour vous répondre, car j'ai toujours une vieille machine à écrire.
Ah bon, vous êtes bien placé alors.
Que j'ai prudemment achetée en 12 exemplaires, pour être sûr qu'elle me durera jusqu'à la fin de mon existence. Et donc... Et donc voilà.
Oui,
et
c'est
du
comprend.
Reste, c'est à cause que j'ai appris que les machines à écrire, ça m'a intéressé, renforcé dans ma décision qu'au début, les machines à écrire, il y a un article de Nietzsche là-dessus, ça avait été inventé pour les aveugles. Donc je pense, pour quelqu'un du cinéma, une machine à écrire est tout à fait ce qu'il faut.
Monsieur ?
Claude Carrez, RCF France-Belgique. Une question tout à fait accessoire, tout à fait banale, à Jean-Luc Godard. Pourquoi les gens se sont-ils à ce point précipités, marcher dessus, les journalistes s'entend, pour aller voir son film, alors que tout de suite je sors d'un film kirghize où on était 25 ? Est-ce que c'est un manque de curiosité de la part des journalistes ? Comment vous réagissez ?
Écoutez, moi, j'étais pas là, je n'en sais rien. Je souhaiterais que les gens qui sont, selon vous, disputés pour aller voir mon film, peut-être qu'ils payent leur place et que, aussi bien pour le film kirghize que celui-là. Donc là, je ne sais pas, j'ai pas de commentaire à faire.
Monsieur.
Oui. Bonjour, Yves Lyon du site internet de officiel. Du Festival de Cannes. Alors, nous avons sélectionné deux questions, ce sont donc des questions qui sont posées par les internautes. Et la première rejoint un petit peu la question qui a été posée tout à l'heure, mais peut-être votre réponse sera sensiblement différente, Jean-Luc Godard. C'est quelque chose de beaucoup plus large, c'est qu'est-ce que l'Internet ? C'est pas... voilà. Et l'autre question, et celle-ci, depuis 50 ans que vous faites des films, beaucoup de choses ont changé dans le cinéma. Quelle est, selon vous, la plus positive et la moins positive de ces évolutions ? Merci.
Beaucoup de choses ont changé dans les rapports entre la production et la distribution. Depuis l'invention du commerce cinématographique par les Français au départ, Pathé, Gaumont, puis les Américains, ce qu'on a appelé les grands studios, jusque vers 50-55. Ensuite, peu à peu, avec la naissance de la télévision, dont je vous rappelle que l'inventeur du tube de télévision, qui était un Allemand, Zworykin, l'a appelé iconoscope, icône, avec le mot icône devant que n'avait pas le cinéma. Le cinéma, il y avait beaucoup scope, mais il n'y avait pas icône. Et donc ensuite, ce côté religion et populaire de distribuer a changé beaucoup de choses. Et je dirais, ce qui a changé pour moi dans la connaissance des films, c'est qu'on peut produire des films, les distribuer, c'est tout autre chose. À ce moment-là, ce n'est plus de la production qui est distribuée, ou elle ne peut plus être vraiment distribuée. Vigo aurait autant de mal que moi à faire un film aujourd'hui. Par contre, beaucoup de films qui marchent, comme on dit, mais s'ils marchent, c'est qui sont dans le domaine du marché. ils sont même déjà démarchés et marchés, et donc on les produit pour les diffuser ou pour les distribuer. La distribution cinématographique est devenue une annexe de la diffusion télévision. La télévision ne produit rien, elle produit peut-être des possibilités de diffusion, mais elle diffuse tout de suite. Une caméra de télévision en direct ou en différé diffuse tout de suite une image, elle ne la produit pas. Je dirais c'est ce qui a changé pour moi. Quant à savoir ce que c'est Internet, je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas.
Vous revenez à Cannes, Jean-Luc Godard, depuis en compétition. Vous auriez pu venir hors compétition, ou ne pas venir du tout.
Oh, mais ça, ce n'est pas moi qui décide. Hein. On propose le film, et puis le festival dit, vous allez là, vous allez à gauche, vous allez à droite. Je trouve ce qui aurait été le mieux, c'est que c'est de passer peut-être à la quinzaine, ou même hors festival, les quatre films, ceux de Romer, de Rivette, de moi et de Rosier. Simplement comme ça, en disant, ben voilà, quatre films, c'est tout. Disons ça, c'est de l'utopie. Après, chacun cherche à placer sa bille le mieux possible. Et de toute façon, c'est Thierry Frémaux et Gilles Jacob qui décident et qui nous disent, vous allez là, vous allez là. Nous, on décide rien.
Vous n'avez pas votre mot à dire?
Absolument pas, je ne voudrais pas. On propose au roi ou au prince de venir, ils nous disent que vous avez quelque chose, vous pouvez venir faire deux ou trois tours, on dit oui, on a ça, on connaît tel tour de magie, on peut vous le montrer, et puis ils nous disent, bon, ben vous viendrez le montrer mercredi à 15 mai à 17h.
Question là-bas au fond. Madame?
This is a question for Jean-Luc.
Could you stand up so we can see you, because we can't.
This is a question for Jean-Luc Godard. Could I ask him whether he feels violence on screen has been taken too far?
Est-ce que vous trouvez que la violence va trop loin à l'écran aujourd'hui?
Oui, c'est une violence sans réflexion. Enfin, je crois que on en est responsable aussi, puisqu'on a, sinon pas inventé, mais on a fait parvenir à un moment donné le message, lors de l'époque des premiers cahiers de la Nouvelle Vague, que l'auteur, que le metteur en scène était un auteur à part complète, au même titre qu'un écrivain avant, c'était le scénariste, si vous voulez. Et du temps de Beaumarchais, c'était même les acteurs. Donc, après avoir fait ça, mais on a appelé politique des auteurs, c'était le mot politique, Danet l'a très bien dit, qui était le plus important. À partir du moment où, si vous voulez, Renault s'appelle non plus fabricant d'automobiles, mais créateur d'automobiles, moi je peux plus m'appeler créateur de films. Surtout si c'est la Laguna qui nous a amenés aujourd'hui.
Madame,
may I speak in English or
please go ahead.
Oh, okay, Mr. Godard, I liked very much your movie. You should be more happier than you seem to be. I'm from Belgrade, Yugoslavia, and you mentioned Kosovo and you know, Albanians, refugees. The things I think changed in the meantime. Do you have the same approach? Because you are mentioning a lot of things, you know. As you know, as well as you know. But can you just comment that? And can you quote for
comment
me
exactly on what? Excuse me.
The situation
in Kosovo. Laba,
yes, because
okay.
Yeah, it was in the movie, and I loved very much the sentence of Saint Augustine, but I forgot. Can you just repeat it, please? Do you understand
alors,
me? Because it's beautiful.
Okay. Alors, je vais commencer par la deuxième partie. Elle adore la phrase de Saint Augustin, mais elle a oublié. Seriez-vous assez gentil de la lui redire?
Alors c'est la mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure.
Et la première partie
Saint
de la
Saint-Augustin avait une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est sur la vérité. Et il disait, les gens aiment tellement la vérité que même ceux qui disent des mensonges veulent que ça soit la vérité.
Et la première partie de la question concernait le Kosovo. Puisque vous en faites état dans le film, vous en parlez dans le film, je voudrais savoir un peu plus sur votre opinion sur la situation au Kosovo en ce moment.
Mais j'ai très vite, en commençant à faire des films réellement, pensé qu'il fallait un peu arbitrairement parler d'un événement que je, disons politique ou social important, pour lequel on était en sympathie, et qu'il fallait, quand c'était l'Algérie, j'ai même fait un film à l'époque à propos de ça, alors que je n'y connaissais absolument rien. Ça a été le Vietnam, où on s'est dit, il faut qu'il y ait le mot Vietnam qui soit prononcé aussi souvent qu'on peut dans un film. Et puis ensuite, j'ai toujours gardé ce côté-là, et là, c'était le Kosovo, puisque je terminais un film dont l'histoire se passait fictivement en Bosnie. Et puis après, la situation a un peu bougé. Et 5 ans après, c'était le Kosovo. Et donc, je pensais qu'il fallait un moment intervenir, enfin dire quelque chose là-dessus. Et j'ai essayé de faire attention à équilibrer deux discours... un certain discours serbe et un certain discours kosovar, tout en marquant ma préférence personnelle pour le discours kosovar et le faisant même prononcer par un Américain dont je dis par ailleurs un peu de mal dans le reste du film. Donc voilà, la situation sur place, je ne sais... Avec Anne-Marie Miéville, on a été invité à un festival de Belgrade et on n'a pas osé y aller car on ne se sentait pas au clair et on voulait bien que le film y aille. Mais aujourd'hui, les gens acceptent peu l'œuvre, parlent peu de l'œuvre, aiment mieux parler de la personne et on ne se sentait pas du tout habilité à dire quoi que ce soit là-dessus. Et je n'allais pas aller à Belgrade uniquement pour dire du mal de Kusturica.
Question over there.
A question for Mr. Goddard, Peter Howell from the Toronto Star. Mr. Goddard, I'm just wondering what problem do you have with Steven Spielberg, and are you worried at all that he might sue you for saying he didn't pay Mrs. Schindler?
Puisqu'on parlait de Kusturica, enchaînons sur Spielberg. Qu'avez-vous contre Spielberg et craignez-vous qu'il vous fasse un procès parce que vous dites dans le film qu'il n'a pas payé Monsieur Schindler?
Madame, pardon. C'est ce que j'ai lu une fois dans Le Monde, qui est souvent un journal bien informé. Donc, ça, je ne sais pas. Et puis, c'est une opinion du personnage du film joué par Cécile. Et puis, contre Spielberg, personnellement, je ne le connais pas. Ces films, je ne les trouve pas excellents, et c'était, disons, parce que c'est un nom emblématique d'une certaine façon de faire du cinéma, et que c'est vrai que j'étais très critique à l'époque où il a cru bon reconstruire Auschwitz, sans, bien que je ne sois pas toujours de l'avis de Claude Lanzmann, par exemple. Là, j'étais tout à fait de cet avis. C'est des choses qu'on ne fait pas. Qu'on ne peut pas faire comme ça, et surtout le fait de transformer la chambre à le gaz qui vient du plafond en eau de jouvence. Donc j'estime qu'en tant qu'artiste et qu'auteur, j'ai le droit de, et par rapport à moi, le devoir de le mettre dans une situation particulière, mais en analysant les choses. En disant, c'est étrange, il n'a pas d'idée, donc il va aller chercher ailleurs. Nous, quand on n'a pas d'idée, on regarde d'abord en nous-mêmes un peu, qui était mon opinion. Voilà.
Il y a une chose qui nous a souvent frappé, M. Godin, entre les 25 633 choses admirables qu'il peut y avoir dans un film de vous, admirables ou désarçonnantes ou intrigantes, c'est que souvent vos personnages prennent le temps de de s'arrêter et de prendre une citation, de citer soit un film, soit une musique de l'Atalante, soit une citation de Bresson. Chose qui est extrêmement rare, sinon unique, dans le cinéma d'aujourd'hui. Et j'ai, en tant que spectateur, on a souvent l'impression que vous y mettez des choses, des éléments, des personnages, des auteurs, des compositeurs ou des films que vous portez en vous depuis toujours.
Non, je porte des bouts de phrases, des bouts de romans, des bouts de peinture, des bouts de paysages. Vous savez, quand on va tourner dans un paysage qu'on aime, c'est une citation. C'est une citation d'une certaine façon. Vous mettez tel arbre, telle maison, tel boulevard. Là, effectivement, je n'habite plus Paris, donc j'ai mis des... Si je mets un plan de voiture qui passe, pour moi, ce n'est pas juste un plan de X qui raccompagne elle chez elle. Le boulevard lui-même a une valeur, comme si un peintre la peignait. Il ne peut pas être filmé n'importe comment. Et donc, ça, pas par rapport aux phrases ou aux trucs, c'est des... Je lis rarement à fond certaines choses, mais tout à coup, une phrase me frappe, me permet d'y penser. Si je m'en souviens, je la note ou je la mets de côté. Et puis après, je regarde dans mon cahier s'il y en a deux ou trois qui peuvent servir. Souvent, non, mais le travail de les avoir recueillis, si vous voulez, sert ensuite à partir ailleurs. Il y a de l'entraînement comme en sport. La musique, personne ne s'étonne qu'on écoute la musique et qu'on recueille et qu'on ne tienne pas tout. Et qu'on ne retienne pas tout, on en retient un moment. Si on a envie de la réécouter, on la réécoute. Une phrase pareille, une phrase de Cioran qui dit, qui s'applique très bien à nous, ici, là, nous sommes tous des farceurs, nous survivons à nos problèmes. Bon, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, que chacun de nous peut dire chaque matin en se regardant dans la glace. En faire un film ou un roman après, ou des études philosophiques, ce qu'a fait Cioran, c'est autre chose, mais c'est peut-être quelque chose et il faut tâcher de la ressortir au bon moment, à la fois par respect pour l'auteur qui vous a apporté quelque chose et qu'on doit redonner.
Merci. Madame.
Could Jean-Luc Godard elaborate further on exactly what he dislikes about Steven Spielberg's films?
You don't think so? The man or his cinema?
Pas l'homme, je connais pas.
The man he doesn't know.
Et le cinéma, ça serait trop long. Je n'aime plus tellement faire de commentaires sur les choses. Après, j'aime bien les faire pendant. Alors, payez-moi ou louez-moi une salle de production, amenez un film de Monsieur Spielberg. On le regarde et on parle pendant qu'on le regarde, c'est-à-dire qu'il faut une salle de projection avec au moins un projecteur kinotone qui peut s'arrêter, faire avant, arrière, et on peut parler. Voilà. Enfin, on essaye en tout cas. Donc si on ne fait pas ça, je n'ai plus envie de le faire, si vous voulez.
Monsieur.
En gros, je peux dire, mais ça je peux le reprocher, enfin le critiquer, si j'étais toujours critique de cinéma comme au temps des premiers temps des cahiers, c'est de dire j'ai le sentiment que beaucoup de films aujourd'hui qui sont faits, que les réalisateurs ou réalisatrices disent ce qu'ils vont faire et ne le font pas si on regarde, mais comme elles ont dit qu'elle allait le faire. Par exemple, elle dit « je vais filmer cette bouteille de Vittel ». Et elle met la caméra et elle le filme pour une raison X de scénario. Et il pense ou elle pense que puisque la caméra l'a enregistré, ça sera la bouteille de Vittel. Mais effectivement, quand Cézanne peint sa pomme, il ne pense pas comme ça. Je ne sais pas, c'est pas facile à dire ou comme ça. Disons, il reçoit la pomme. Disons, dans la caméra, L'objectif n'est pas fait pour aller vers la chose, il est fait pour recevoir la chose. C'est comme ça. Ça change avec la télévision. C'est là le grand changement dont on parlait tout à l'heure. Le réalisateur, il est derrière, qui regarde ou qui regarde pas, mais il est derrière. Et il envoie quelque chose. Il ne commence pas par recevoir. Il commence par renvoyer ce qu'il pense ou ce qu'il a écrit qu'il fait. Donc il y a toute une fonction de la caméra qui disparaît. Parce que ce qu'il fait de renvoyer, ça c'est l'appareil de projection, c'est le projecteur qui doit le faire, pas la caméra. La caméra doit recevoir uniquement. C'est pour ça que les lumières étaient deux, et qu'ensuite il y en a un des autres, une fois, qui avait d'abord, du reste, c'est Auguste, il avait d'abord inventé le projecteur. Et puis l'autre lui a dit, mais il faut inventer une caméra avant pour que le projecteur puisse servir. Enfin voilà, des choses comme ça. Et je dirais que dans mon film, en y réfléchissant, en tant que critique ou philosophe cinématographique, j'ai tourné la première partie avec une vraie caméra de 35 mm qui n'a pas vraiment changé depuis 100 ans. Et la deuxième partie, je dirais presque que je l'ai tournée sans caméra, c'est-à-dire avec une de ces petites caméras un peu n'importe quoi qu'on met, où on fait un peu n'importe quoi, et il fallait que ce n'importe quoi qui était fait un peu n'importe comment ensuite quand même ait une certaine valeur, et comme ça, mais je dirais presque ça comme ça. Je dirais, si on compare la caméra avec un crayon, un réalisateur, moi par exemple, qui ne sait pas dessiner, je me rends très bien compte que si je me mets à dessiner, mon crayon oppose une certaine résistance, que je ne dessine pas comme ça. Il faut quelque chose. Or, la caméra, c'est pareil, mais les gens croient qu'ils peuvent dessiner, les trois quarts. Je pense que ça, c'est un grand changement, et qui est venu du fait que tout est disséminé, parce qu'à la télévision, on ne se pose pas ce problème, puisque tout est transmis en direct, ou en principe, car si c'est du différé, c'est pour d'autres raisons, mais c'est du direct différé, c'est juste transmis. Il n'y a pas de création, on ne crée pas un reportage de football, on le transmet. Enfin voilà, si, excusez-moi d'avoir été un peu long.
Monsieur ?
This question is for Monsieur Godard. I'm Jonathan Roy from the Atlanta Journal. Monsieur Godard, I was wondering, how do you expect the people of the nameless culture between Mexico and Canada to react to their depiction within the film?
Monsieur Godard, comment pensez-vous que le film sera reçu par les habitants de ce territoire, ces habitants sans nom de ce territoire situé entre le Mexique et le Canada?
Je pense qu'ils ont peu de chances de le voir. Sauf peut-être certains petits cinémas qui reprennent ou comme ça, qui peut-être veulent... Mais je ne sais pas du tout. Ça, quelqu'un était chargé de la vente à l'étranger. Je ne sais pas pour l'instant. Je crois qu'il n'est pas vendu aux États-Unis. Et donc, je n'ai pas la moindre idée. Mais c'est une... Je ne sais pas du tout.
Question là ensuite.
Monsieur Godard, Alexis Grivas, Le Sol du Mexique. J'ai une question. Il y a un long itinéraire dans vos films qui peut-être a commencé avec Weekend, où la narration est décortiquée. Au moins, moi, je le trouve comme ça. Aujourd'hui, on a un film qui, même en ayant ce même genre de narration, il est très émouvant, parfois. Je voudrais vous demander si, de manière pratique, vous avez répondu un peu indirectement, vous pouvez nous dire comment vous procédez par rapport à la construction et la déconstruction de l'image, de la narration au niveau des images. Tout à l'heure, vous avez parlé comment vous travaillez avec des citations. Mais en ce qui concerne l'image, c'est construction et déconstruction, quelque chose de prévu sur, lors du montage, est-ce possible d'avoir un peu de précision pratique là-dessus?
Non, je ne vois pas. Il faudrait être beaucoup plus précis et ça serait ennuyeux ici pour décrire, essayer de se souvenir comme d'un fait historique, comment un plan a été fait, suite à quoi, et comment ça s'est fait. Moi, j'ai plutôt tendance à penser le mieux possible. Là, j'essaye de penser souvent sans prendre de notes et de prendre des notes à partir du moment où, si j'ose dire, la salade était suffisamment remuée. Et puis après, quand on a 5 ou 6 personnes minimum autour de soi, qu'on est là, je l'avais mis dans Mozart, à un moment, souvent, je ne sais pas trop bien quoi faire. Quand je sais quoi faire, je le dis tout de suite. On met la caméra là, tu te mets là. Je donne peu d'indications, des indications de place, et puis j'essaye de surveiller. Ça, c'est du très, 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 très classique. L'approche, peut-être, ne l'est pas, mais la fabrication du plan l'est. Quand je ne sais pas, je me souviens d'une boutade de John Ford, où il arrivait quelque part, il disait « mettez ça là », il ne savait absolument pas, ça prend 1 heure à faire, on est tranquille pour réfléchir un peu, les enfants sont occupés. Mais le plan lui-même, ça, c'est de la pensée. Moi, je pense que ça doit être plus près du peintre et de la construction du roman. Il y a des romanciers qui font des plans de construction, il y en a qui n'en font pas. Je me souviens d'une phrase de Tolstoï qui racontait qu'il n'arrivait pas à finir Anna Karenine. Et son éditeur lui demandait quand est-ce que ça va venir. Et Tolstoï lui répondait, mais mon pauvre ami, Anna est partie. Dès qu'elle reviendra, je vous envoie les pages.
Monsieur.
Yes, I'll do the question in English. In the press book of the film, there is an interview in which you say that if something has already been made by others, there is no point for you to repeat it. And my question is, have you ever felt that you have repeated yourself on film?
Dans l'interview qui est publiée dans la brochure de presse, Monsieur Godard, vous dites si quelque chose a été fait, ça ne m'intéresse pas de le refaire. Avez-vous l'impression, si j'ai bien compris la question, que vous vous êtes vous-même jamais répété?
Oh, je pense, mais on s'en rend compte souvent plusieurs années après. Je sais que c'est quelque chose qui me... Peut-être, j'ai souvent souhaité faire du théâtre, mais je me suis rendu compte que je ne saurais pas très bien qu'en faire. Même on m'a proposé des fois de faire simplement une mise en scène, et j'ai souvent eu envie d'accepter en me disant c'est formidable, il y a des dialogues formidables de Brecht, de Marivaux, je parle même pas de Shakespeare ou comme ça, j'ai rien à faire, il y a un costumier, j'ai pas besoin de m'en occuper, il y a quelqu'un qui s'occupe de la lumière, j'ai pas besoin de m'en occuper, j'ai pas besoin de chercher de décor, la scène est là. Et puis finalement je me disais, mais alors je vais faire quoi? Et en fait je crois que ce qui me gênait, enfin tout à coup en y pensant maintenant, ce qui me gênait, c'est que ça a déjà été fait. Shakespeare a été monté 1000 fois, formidablement par certains, moins bien par d'autres. Je peux très bien aller voir une pièce 2 fois de suite faite par la salle et la trouver magnifiquement mise en scène. Mais moi-même, puisqu'il l'a fait, je ne vais pas le faire 1/3 fois. C'est quelque chose qui m'empêcherait de faire du théâtre, même déjà au niveau de l'écriture. Puisque Shakespeare a écrit ça, pourquoi le monter? À quoi ça sert?
Question là.
Yeah, hi, Harlan Jacobson. I think one of the things that I remember being taught is the Santayana comment about if one does not remember history, one is doomed to repeat it. And since so much of the film, in fact, deals with the question of memory and history, it seems to me, as I get older perhaps, that the opposite is true, that we are more comfortable repeating history, because even how terrible it is, because it's familiar.
Okay, so hold on. Let me translate here. Monsieur évoque une phrase de Santayana qui est « Ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la répéter », et vous en faites et nous en étions dans le film, il proposerait presque une sorte de corollaire à ça, c'est, si on peut appeler ça un corollaire, à la limite, on est presque, il est presque confortable que l'histoire se répète. On peut juger confortable que l'histoire se répète.
Oui, absolument.
So the question then becomes, over the course of your career, how do you feel that your cinema and cinema in general, perhaps, has changed with respect to the recording of two things, our social history, then the kind of risks that we take, and our emotional history and the kind of risks that we take?
Et donc, quel sentiment... comment, à votre avis, le cinéma en général et le vôtre ont évolué en ce qui concerne l'enregistrement ou l'appréhension de notre histoire sociale et de notre histoire émotionnelle? Je traduis.
Là, je ne vois pas très bien la question. Il me semble que le cinéma n'a, en gros... rien changé, il a aidé des moments à faire réfléchir un petit peu ou aimer, puis ensuite, je sais pas, les gens, ça s'est pas fait. Je pense qu'effectivement, c'est un peu le regret, je sais pas ce que pensent les peintres par rapport à la peinture, je pense que la peinture a fait évoluer leur regard ou certaines choses à la fin du... à l'âge de la Renaissance avec la perspective. Et puis, le regard avec les impressionnistes et ce qui s'en est suivi. Un peu le cinéma, ça a été trop vite. Et puis, il a tout de suite débouché sur 50 ans, c'est pas grand-chose. Hein, il a tout de suite débouché sur la télé. Ce qui fait que, effectivement, les gens ont l'histoire qu'ils méritent aussi. Je veux dire, si on n'arrive pas à comprendre ce qui arrive quand on a pris sans même avoir l'âge d'Olivera, ce qu'on peut arriver, je pensais que l'histoire aurait, que le cinéma était fait pour montrer les choses en grand d'une autre manière, mais il a peu eu de succès là-dessus, et il a tout de suite été rassurant, car il a très vite appartenu, sous l'influence de la Californie, très vite appartenu au marché, et ça c'est les gens qui l'ont voulu. Même moi, si vous voulez, entre un mauvais film kirghiz et un mauvais film de Bruce Willis, ben, je vais voir le mauvais film de Bruce Willis.
Question là?
Et je ne sais pas pourquoi. Ce que je voudrais dire, je suis très sensible au fait qu'il y a beaucoup de ce que j'ai appelé des bons Américains dans cette salle, parce que c'est qu'eux qui posent des questions.
Les autres n'osent pas. Non, il y a quand même quelques Canadiens là.
Oui, le pays au nord de cette place-là. Votre film suggère une mélancolie très belle en termes de le passé du cinéma. Et même une sens qu'on a vu la mort du cinéma. Je demande, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, quelle sorte de... Henri, what kind of afterlife? Quelle sorte de vie? Est-ce qu'il y a de la vie après le cinéma? Et comment est-ce que vous le voyez?
Vous voulez dire de la vie de cinéma?
Comment? You mean cinema life?
Yes. Is your film to some extent
disons
about...
Le film, le cinéma dont... Le cinéma dont Canudo, Jean-Georges Auriol, Bazin, James Agee aux États-Unis, Henri Langlois, Truffaut, un peu moi-même et d'autres, le dernier étant Danet, car c'est les Français surtout qui ont examiné le cinéma de cette façon-là. Celui-là, effectivement, a disparu d'une certaine façon. Le Festival de Cannes que j'ai connu jeune homme en 1950 ou 51, la première fois que je suis venu ici avec Jacques Rosier, et on a vu un monsieur qui portait des bobines, et puis on l'a sur un Américain qui portait des bobines sur son dos pour les amener à la projection. Et on lui a demandé son nom, c'était Jacques Nicholson. Et puis, c'était un film de Monty Hellman. Bon, on l'a aidé à porter les bobines jusqu'à la cabine de projection. Ce Cannes-là a disparu, que vous voulez. Qu'on en soit un petit peu nostalgique comme de l'enfance, oui, je l'ai été un petit peu. Le fait d'avoir fait un travail qui me regardait moi-même sur l'histoire du cinéma m'a aidé aussi à voir, bon, ben c'est comme ça. Effectivement, après, je le vois d'une certaine manière, et ça m'enchante, en me disant, peu importe, ça sera peut-être de la vidéo, ça sera peut-être du DVD, ça sera peut-être de ce que vous appelez l'email, je ne sais pas très bien ce que c'est, etc. Mais quand je vois la pomme de cette jeune fille iranienne, quand je vois un des premiers ou deuxièmes films d'Omir Baïef, quand je vois Du soleil pour les gueux et l'autre film d'Alain Guiraudy qui est passé à la quinzaine des réalisateurs et qui est probablement ce vieux rêve qui bouge et qui est probablement le meilleur film de ce festival, eh bien, effectivement, je me dis, ça continue. Et je retrouve, et je suis exactement pareil quand avec Jacques Rivette, on faisait je ne sais pas combien de kilomètres pour aller voir tel film à telle heure et qu'on revenait en marchant dans la nuit parce qu'on a ça, exactement pareil. Donc je me dis, ça continue. On se dit, tiens, ça aurait pu être, puis en même temps, non, après tout, non, je ne sais pas.
Alors, attendez, parlons de ça.
C'est la distribution qui a beaucoup changé. La distribution, que ça soit moi ou cette jeune iranienne dont j'ai du mal à retenir le nom.
Samira Marwalbaf.
Oui, ben vous voyez, j'ai du mal. ou je ne sais pas quoi, je me souviens du... Ben par exemple, là, ce film, le premier long-métrage d'Alain Guiraudy, Du soleil pour les gueux, je me demande, mais comment ça se fait qu'il fait 400 entrées à Paris et comment ça se fait que, je ne parle même pas d'Amélie Le Poulain, mais Mademoiselle en fait 400 000. Quelles sont ces énormes différences, qu'il n'y avait pas de mon temps, ces différences aussi énormes? Pourquoi, comment? Et je me dis, bon, ben, ce film-là d'Alain Guiraudy a été fait, et nous, je l'aime autant que quand j'ai découvert Vigo, ou comme ça, et que ça m'apporte énormément.
Alors,
et que ça permet de poursuivre, tout à fait.
Mais puisque cette année, on célèbre...
Je pense que ça n'a pas changé. Mais pour lui, ce qui est difficile, c'est la distribution. Car ensuite, il ne peut plus être pris vraiment en distribution. Soit il doit passer 4 ans en France, ville par ville, et il devient un fada complètement. Mais il peut arriver à en vivre quand même. Car 40 personnes dans une petite ville par jour, il peut les trouver. Et on peut vivre avec ça. Mais à ce moment-là, il doit passer 4-5 ans. Et c'est trop. Le petit système qui avait été mis en place, celui-là a volé en éclats avec tout le reste. Maintenant, il y en a d'autres. Donc, c'est aussi difficile. Il n'y a pas vraiment de différence.
Puisqu'on célèbre le cinquantenaire des Cahiers du cinéma où vous avez écrit « Dieu le sait », et quand je vous entends dire ce que vous venez de dire, est-ce que l'envie vous prend jamais de reprendre la plume et de faire ce que peut-être plus personne ne fait?
Beaucoup, mais on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, si vous voulez. Et puis j'aurais peur de dire du mal ce qu'on peut faire d'une certaine façon avec l'élan de la jeunesse, qui n'était pas dire du mal des personnes, puisqu'on a toujours parlé des œuvres. Même Truffaut, je crois qu'il a écrit un article une fois en disant du mal de quelqu'un, c'était de Robert Chazal, le critique de François. Et il a publié sa photo et il a dit « Le monsieur qui a cette tête-là ne peut pas faire de bonnes critiques de films ». Mais c'est la seule fois. Et du reste, Chazal, après, avait changé de photo.
Question là, puis là-bas.
Je voudrais savoir où vous en êtes du projet d'adapter Truisme de Dario Sac.
Oui, j'ai fait une erreur. J'ai donné 500 000 francs à l'éditeur et après j'ai été incapable de, de penser quoi que ce soit. J'espérais que je pourrais le revendre et je n'ai pas pu, donc j'ai perdu 500 000 francs. Truisme.
Monsieur, puis monsieur.
Question pour monsieur Godard.
Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, merci.
Vous avez dit il y a quelques minutes que les Américains n'ont pas peu de chance de voir votre film.
Oui, j'en ai une petite.
Oui. Quelle serait votre réaction si un studio vous proposait de faire un remake?
Mais on m'a proposé chaque fois, ça n'a jamais marché. J'ai cru. Non, mais j'ai cru. J'ai même habité Mulholland Drive. J'y ai cru, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ils ont, même il y a 20 ou 30 ans, ça n'a jamais marché.
Question, madame, et puis monsieur.
Monsieur Godard, what do you feel has changed the most in your work? Attitude, tone, film language? If you had to select, what has changed the most?
Qu'est-ce qui, à votre avis, M. Godard, a le plus changé dans votre œuvre? Serait-ce surtout l'approche, l'attitude?
Oui, l'attitude vis-à-vis de quoi?
Qu'est-ce qui, à votre avis, a le plus changé dans votre manière d'appréhender le cinéma ou de voir les choses?
Moi, je dirais tout, mais pas vraiment. C'est-à-dire me connaître un petit peu mieux. J'ai toujours eu, j'avais de gros problèmes à passer une heure de film. Ça m'étonne toujours les films qui arrivent à faire 2h30, 3h. Moi, j'avais toujours de peine à faire une heure, comme il faut faire quand même en principe 1h30, 2h moins le quart. Je faisais du remplissage, mais il y a toujours eu un grand trou, ça je l'ai dit récemment, je crois. Et que depuis quelques années, soit je faisais des films d'une heure, soit là, pour la première fois, il y a un trou, et ce trou, ça a permis, on l'a gardé, et il y a eu une deuxième partie, il est tombé juste là où il fallait.
Monsieur.
Bonjour, Dabouze, Dessiné Info. Est-ce que vous redoutez quelque chose aujourd'hui au Festival de Cannes? Qu'est-ce que vous redoutez?
Redouter, rien du tout.
Rien du tout. Et est-ce que si vous réussissez à recevoir la Palme, quels seront vos premiers mots?
Mais j'y pense pas du tout. C'était pas fait pour ça. C'était fait pour rencontrer, ce qui se fait ici, grâce à Alain Sard et à Ruth, rencontrer peut-être deux ou trois personnes qui seraient intéressées par mon prochain film qui s'appelle Notre musique. Et comme je suis partenaire dans une société avec Anne-Marie Miéville, son prochain film qui s'appelle Dreams Work. Et donc j'étais intéressé à si on pouvait trouver un peu d'oseille, comme on disait autrefois.
Madame.
Bonjour. En tant que spectatrice de votre film ce matin, j'ai été bouleversée. J'ai eu les larmes aux yeux sans vraiment comprendre pourquoi. J'ai ri, j'ai souri. Vous évoquez beaucoup le sourire dans votre film, mais aucun acteur, aucun de vos personnages ne sourit jamais. C'est le deuil du sourire aussi, ce film ?
Ah non, faut pas interpréter tant que ça, parce que si vous avez été un peu ému et que vous pensez, vous pouvez y repenser vous-même. Pourquoi étais-je ému? Ça vous regarde vous? Ou par quelle chose avez-vous été ému? Après, moi, je peux vous dire, bon, ben, c'est quelque chose qui a un rapport avec vous, votre histoire à vous. Le reste, je peux pas tout dire. Il y a, je pense, beaucoup de sourire, il y a beaucoup d'ironie, même s'il ne se marque pas sur le visage des gens. Et j'ai surtout fait attention à ce qu'on ne croit pas et qu'on ne soit pas déçu non plus, si possible, par le fait que ce n'était pas une histoire d'amour de monsieur avec mademoiselle au sens californien du mot, si vous voulez.
Madame ensuite.
Bonjour, Monsieur Godard, Dana Thomas de Newsweek magazine. Earlier you talked about distribution, people seeing movies. There are many young French filmmakers in Paris who believe who are disciples of you, who have studied you, love your work, still try to continue the new wave, who believe that if a lot of people go see their movies, they're a failure. That if they're commercial, then they've lost the artistic side. Do you think that this is true? Are they misinterpreting what you were doing as a young man in the 60s? Or do you think that commercialization, the commercial side of cinema, kills the artistic side?
Monsieur Godard?
The more people
wait a minute,
see
wait a
it,
otherwise I'm going to forget.
The more people see it, the less artistic.
Okay,
it is.
Like Woody Allen saying, too many people went to see Hannah, I must have failed somewhere. Okay. Vous parliez tout à l'heure de distribution, Monsieur Godard, et beaucoup de jeunes réalisateurs aujourd'hui vous suivent encore, vous suivent toujours, vous prennent pour modèle à bien des égards et essayent d'appliquer les principes que vous aviez d'une certaine manière établis ou édictés quand vous étiez vous-même un jeune réalisateur et qui ont le sentiment aujourd'hui que lorsqu'ils font un film qui, entre guillemets, marche, lorsque le film qu'ils font est couronné, entre guillemets, d'un succès commercial, c'est que quelque part, ils ont échoué. Ont-ils raison de le penser ou ont-ils mal compris ce que vous pouviez avoir dit à l'époque où vous aviez leur âge?
Disons, ils ont le plus souvent raison d'y penser, je dirais, mais il y a des exceptions. Il y a souvent des exceptions. Et voilà, je me souviens d'un film de, il n'y a pas très longtemps, de 3-4 ans, de Coris Maki, qui s'appelle « Au loin s'en vont les nuages », qui ne faisait pas beaucoup d'entrées. Celui-là était difficile. C'était un film très théâtral, très fabriqué, enfin, très cinématographique aussi, enfin, splendide, enfin, qu'on peut appeler un film difficile, et qui a fait... à Paris, enfin sur la France, il a dû faire 200 ou 250 000 entrées. Le premier film de Terence Davis aussi, qui s'appelait Distant Voices Still Lives, qui était absolument magnifique. Et ben, il n'aurait pas dû marcher, selon ma théorie. Et ben, il a marché, et ben, c'était fort, c'était très bien, ça. Non, non, ça arrive.
Is that okay? Madame?
Ariane Dolfus de François. Deux questions pour Jean-Luc Godard. On peut penser que le personnage d'Edgar est votre double. Alors, est-ce que vous pouvez dire Edgar, c'est moi, premièrement. Et ce personnage d'Edgar dit d'ailleurs, enfin, le personnage de Philippe dit d'Edgar que c'est un homme qui essaye d'être un adulte. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être un adulte, encore un enfant, ou déjà autre chose? Et autre question, je voulais savoir ce que le cinéaste et philosophe que vous êtes pense de Love Story, qui est actuellement sur M6 et dont absolument tout le monde parle. Quel est votre sentiment sur cette chose?
Ben oui, mais j'ai rien vu, alors je peux pas vous dire. J'en entends parler, mais je sais pas, je vois pas. Pour Edgar, non, c'est pas mon double. Moi, j'ai l'impression d'être devenu adulte très très tard, peut-être aujourd'hui. Je commence un peu à devenir adulte. Bon, vous me direz à 70 ans, c'est le moment. Mais est-ce que ça peut vraiment être... Le cinéma, quand je l'ai commencé, était intéressant de ce point de vue-là, puisque j'ai fait mon premier film à 30 ans. Je m'étais juré que je le ferais avant 25 ans, comme Orson Welles, puis ça m'a quand même pris 50 plus. Et donc, à 30 ans, j'avais un an de cinéma, mais j'avais 30 ans d'âge réel, et il m'a fallu 30 à 40 ans pour que les deux se rejoignent, et qu'aujourd'hui l'âge réel et l'âge de cinéma, c'est-à-dire 40 ans, donc je suis un adulte de 40 ans, mais j'en ai 70.
Mesdames et messieurs, le temps que nous était imparti s'achève. Merci.